Bonjour à tous, frères et sœurs. C'est toujours un privilège, une joie de nous retrouver pour célébrer notre Seigneur et écouter ce qu'il a à nous dire, écouter sa parole. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton saint nom. Seigneur, pour le privilège que tu nous fais d'être là ce matin. Nous l'avons entendu que ce n'est pas un acquis. Seigneur, tout est grâce. Mais vraiment, tout est grâce. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu as daigné renouveler en nous tes grâces, comme nous l'avons entendu, tes bontés, tes compassions qui ne s'épuisent jamais. Oui, Seigneur, merci. Parce que nous nous tenons là, Seigneur, c'est au pied de ta croix. Au pied de ta croix où nous voulons contempler cette belle œuvre que le Christ a accomplie pour nous, pour le salut de nos âmes. Jésus, nous te voyons tel que tu es, dans ta splendeur, dans ta magnificence. C'est dans ta présence que nous nous tenons et nous te rendons grâce de nous accepter tel que nous sommes. Nous voulons nous laisser abandonner entre tes mains pour que par ton esprit, que tu te révèles encore à nous davantage. Oui, viens nous parler. Parle-toi, parle, Seigneur, parle-nous de toi-même, parce que toi seul peux vraiment nous parler de toi. Par ton esprit, révèle-toi à nous. Nous te soumettons nos cœurs, nous te soumettons nos êtres tout entiers, et nous prions que ton esprit prenne autorité de nous, prenne autorité sur chacun d'entre nous, et que tout ce qui n'est pas de toi fasse silence maintenant. Dans le nom de Jésus, bénis notre écoute de ta parole. Nous te soumettons, nous te remettons aussi nos enfants, que tu disposes leur cœur aussi à l'écoute de ta parole, que cette bonne semence trouve une belle place, une place de choix dans leur cœur. Oui, Seigneur, que la foi en Christ grandisse en eux aussi. Nous te disons merci, vraiment pour ce privilège d'être là. Que gloire, honneur, puissance, honneur, magnificence te soient rendus. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, je me permets de vous demander de vous lever pour ceux qui le peuvent, pour écouter la lecture de la parole de Dieu, une façon d'honorer la parole de Dieu. Lorsque nous honorons la parole de Dieu, nous honorons celui-là qui est la parole qui est devenue chair, Jésus-Christ. Premier passage, une première lecture dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 15 à 16. Éphésiens 2, 15 à 16. Je peux commencer par le verset 13, Éphésiens 2, 13 à 16. Lisons au nom du Seigneur. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans les prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Une deuxième lecture, toujours dans l'Épître aux Éphésiens, cette fois-ci au chapitre 4, les versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Enfin, une dernière lecture dans l'Épître aux Colossiens, cette fois-ci au chapitre 3. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 9. 9, 10 et 11. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Je vous invite à vous asseoir dans sa sainte présence. Bien-aimés dans le Seigneur, à la suite des deux messages que nous avons entendus les deux derniers dimanches, je voudrais aujourd'hui vous parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est appelé dans ces passages, soit un seul homme nouveau ou l'homme nouveau. Je ne reviens pas sur les deux derniers messages, mais souvenons-nous qu'il y a deux dimanches, on a parlé de la foi, le risque que nous devons prendre dans la foi. La foi est un risque. Et dimanche dernier, je vous ai parlé de... Oui, de quoi exactement ? Dimanche passé, je vous ai parlé de ce que signifie être un chrétien. Oui, ce sont les chrétiens qui prennent le risque dans la foi. Oui. Je vous ai parlé de ce que signifie un chrétien en commençant par vous dire ce qu'un chrétien n'est pas et ensuite ce que devait être un chrétien. Ce matin, je vais vous parler de l'homme nouveau et nous allons réaliser qu'un chrétien est un homme nouveau. Un chrétien est un homme nouveau. Vous voyez, à travers toutes les lectures que nous venons de faire, il y a une expression qui attire notre attention, c'est un seul homme nouveau, ou un homme nouveau, ou l'homme nouveau. L'apôtre Paul dit ceci dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, au verset 15 à 16, il dit, lorsqu'il a plu à Dieu, lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, effectivement, il faisait allusion à Dieu, qui m'a appelé par sa grâce lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. L'apôtre Paul est en train de nous dire, lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus, la première chose que j'ai désiré à faire, c'est de chercher le Saint-Esprit. C'est de chercher à consulter le Saint-Esprit parce que c'est lui qui gère tout ce qui est de Christ. C'est lui qui connaît tout ce qui est de Christ. Vous savez, le message que j'aimerais vous donner ce matin est un message très important pour nous, pour l'Église en général, mais surtout pour chacun d'entre nous. Vous savez, dans nos églises, au milieu de nous, on entend souvent des chrétiens exprimer ce qu'on appelle le besoin, mais vraiment le grand besoin de retrouver ce qu'on appelle la fraîcheur de la foi chrétienne. Cette foi qui a caractérisé les chrétiens justement de l'époque, les premiers chrétiens, mais vraiment dans sa vitalité, dans sa puissance d'origine. C'est une question qui préoccupe bon nombre de chrétiens. En tout cas, je pense que vous êtes de ceux-là aussi. Comment le peuple de Dieu pourra-t-il retrouver la fraîcheur de la foi? Comment le peuple de Dieu pourra-t-il retrouver cette vitalité et cette puissance de la foi des premiers jours? Bien-aimés, nous allons chercher à répondre à cette question, enfin, du moins en partie, et je crois que cela sera d'une très grande utilité pour nous, pour l'Église de Jésus-Christ. D'abord, essayons de comprendre un peu pour quelle raison cette fraîcheur et cette vitalité, cette dynamique ont disparu. Comment expliquer leur absence? Qu'est-ce qui est à la base, à la source même de la situation actuelle qui la rend un peu si différente de celle des premiers chrétiens? Vous voyez que une fois qu'on a dit ça, on réalise que le sujet est très vaste et que nous pouvons rester toute la journée. Le sujet est très vaste. Oui, c'est pour dire clairement les choses, nous n'avons pas la solution et toutes ces questions, les solutions à toutes ces questions. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, frères et sœurs, si la foi chrétienne se trouve actuellement dans un état si déplorable, spirituellement parlant, il me semble qu'il faut l'attribuer, mais en tout cas dans une large mesure, au fait que cette foi est devenue presque entièrement une tradition. La foi chrétienne est devenue une tradition. La foi chrétienne est devenue un système rigide. La foi chrétienne, oui, aussi bien dans sa doctrine que dans la façon pratique de la vivre. C'est quelque chose qui vient presque à nous de l'extérieur et qui est présenté comme devant être accepté, comme devant être adopté et à laquelle il faut se conformer. Le christianisme, oui, le christianisme, pour ainsi dire, a pris une forme fixe. Il est devenu une chose, le christianisme. Et vous voyez, ceux qui viennent à l'église doivent accepter cette chose-là, le christianisme. Quand nous avons reconnu cela, nous avons touché le cœur même du problème. Car au commencement, effectivement, au commencement, on peut d'ailleurs en suivre le principe à travers le Nouveau Testament, mais au commencement, tout était une question de révélation vivante d'une personne. Tout était question de révélation vivante de la personne de Jésus-Christ. Car toutes les fois que Dieu s'est mis à agir à nouveau en relation avec son plan éternel, avec son dessein, mais il l'a toujours fait. Il l'a toujours fait en donnant une révélation intérieure nouvelle. Une révélation du Seigneur. À la base, bien-aimé, c'était une grande première. C'était un pas en avant dans la réalisation du plan de Dieu lorsqu'il est entré en communion avec un certain Abraham. Il est dit dans Actes chapitre 2, verset 7, c'est le discours du martyr Étienne, il dit « Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. » Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Mais c'est une autre manière de dire, mais il a plu à Dieu de se révéler à Abraham. Ce qui était arrivé à Abraham était en principe une révélation du Dieu de gloire. Et cette révélation du Dieu de gloire, c'est celle-là qui avait affranchi Abraham et avait orienté toute chose dans sa vie. La révélation, comme un maillon dans la chaîne du plan de Dieu. Alors, c'était aussi le cas pour Moïse, qui représente une autre étape de la part de Dieu, une action nouvelle dans la réalisation de son plan. Dieu a paru à Moïse, chapitre 3. Dieu a paru à Moïse dans le buisson ardent. Moïse a vu le Seigneur, il a eu une vision du Seigneur. Et cela a été déterminant, très déterminant pour lui. Vous voyez, sans risque de se tromper, nous pouvons dire que chaque fois que Moïse s'est trouvé devant des difficultés, devant les circonstances adverses, devant les souffrances, mais vraiment chaque fois, il revenait toujours à cette vision initiale. Il se remémorait le jour où il a vu le Seigneur dans la flamme du buisson. Le Seigneur lui était apparu. C'est quelque chose qui est resté fondamental dans sa vie. Ce jour-là, il pouvait dire, j'ai vu. J'ai vu le Seigneur. J'ai été en contact avec, un contact vivant avec le Seigneur. Il a plu à Dieu de se révéler à moi, pouvait dire Moïse. Vous voyez que nous pourrions continuer à citer d'autres personnages de la Bible et constater que, mais vraiment cela était à chaque fois. Vous voyez, Ésaïe dit au chapitre 6, au verset 1, chapitre 6, oui, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Et le pagne de sa robe, de son vêtement, remplissait le temple. Il dit, je vis le Seigneur, assis sur son trône, un trône élevé, et le bout, le pagne de son vêtement, remplissait le temple. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Il en était de même dans le Nouveau Testament. Pour les disciples, tout leur témoignage devait reposer sur les 40 jours qui ont suivi la résurrection du Seigneur Jésus. Nous avons vu le Seigneur. C'était bien là le but de Jésus. Oui, il s'est montré à eux pendant 40 jours. Ils l'ont vu, quoique tout autrement, d'une manière spirituelle, d'une manière dont il ne l'avait jamais vu auparavant. C'était d'une façon vivante. L'apôtre Paul a fondé d'ailleurs toute son histoire sur ce fait. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Nous l'avons lu Galates 1:16. Il pouvait dire aussi, j'ai vu le Seigneur. Mais voyez que cela n'était pas seulement vrai au commencement de chacun de ces hommes, mais c'était une réalité qui, en principe, devait se répéter chaque fois que de nouveaux développements étaient en vue. Chaque fois qu'un autre pas en avant devait être fait. L'apôtre Pierre, après la croix, avait vu le Seigneur pendant, je disais, une quarantaine de jours. Il l'a vu sous cet aspect. Mais Pierre devait encore progresser dans la réalité spirituelle. Il a vu de nouveau le Seigneur Jésus-Christ à propos de Corneille et de l'admission des païens, des nations païennes dans la foi en Jésus-Christ. Il a de nouveau vu le Seigneur et cette fraîche vision du Seigneur l'a affranchi encore davantage, justement, de la tradition dans laquelle il se tenait, du vieil esclavage légaliste de ce qui est de cette terre. Ça l'a affranchi de ce qui est historique, ça l'a affranchi de ce qui est de la connaissance de la chair. Il a vu l'apôtre Pierre, et nous savons ce qui lui est arrivé. Frères et sœurs, quand il a vu, en tout cas, c'était plus fort que lui. Tous ses arguments, je dis bien tous ses arguments, étaient désormais inutiles. Oui, il monte à Jérusalem où les autres disciples le prennent à partie. Mais pourquoi tu allais avec les païens? C'est pas possible. Ils argumentent avec lui, ils le questionnent au sujet de sa visite parmi les païens. Ce qu'il répond revient en quelque sorte en substance à ceci. Frères et sœurs, j'ai vu, et c'est plus fort que moi ce que j'ai vu, mais que voulez-vous que je fasse? J'ai vu le Christ ressuscité. Vous savez, quand un homme voit, c'est plus fort, mais c'est plus fort que lui. Il est affranchi, il est enthousiasmé parce qu'il voit. D'abord, s'il voit effectivement de la bonne manière. Quand le Seigneur a voulu que l'évangile que nous avons, l'évangile, justement, arrive en Europe, le continent dans lequel nous nous trouvons, il l'a fait montrer. Il l'a fait d'ailleurs en montrant quelque chose. Souvenons-nous. D'ailleurs, dimanche prochain, je vous parlerai d'un principe biblique au sujet de ce que signifie voir. Voir. Je disais, quand le Seigneur a voulu que l'évangile arrive en Europe, il l'a fait montrer. Il a montré quelque chose. Oui, l'apôtre Paul a vu un homme de Macédoine. L'apôtre Paul. Et cet homme dit à Paul, passe en Macédoine et sauve-nous, sauve-nous, secours-nous, passe en Macédoine. Lui qui voulait se rendre en Bithynie, mais Dieu dit non, regarde. Oui, donc bien que Paul ait voulu entrer en Bithynie, en cherchant effectivement à prêcher la parole en Asie, le Seigneur lui dit non. Et il lui fait voir ensuite un homme de Macédoine, acte 16. Versets 6 à 10. Paul aurait pu résumer tout cela de la manière suivante. Ce puissant mouvement de l'évangile en Europe, c'est par une nouvelle vision. C'est par une nouvelle vision, une vision céleste que Dieu l'a réalisée. J'ai vu et je suis allé. Pour avancer, il fallait une vision céleste. Frères et sœurs, la voie de l'accroissement, du développement était par une nouvelle révélation. Le chemin de la progression dans le dessein, dans le plan de Dieu, était que les yeux du cœur soient ouverts pour voir. Les yeux du cœur. Non pas une fois, non pas deux fois, mais à chaque fois que Dieu veut aller de l'avant, il ouvre les yeux tout à nouveau. Mais quand il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Voilà le principe, du commencement à la fin. Il en a toujours été ainsi, une révélation vivante, les yeux du cœur illuminés par une révélation de Christ. Il a plu à Dieu de révéler. Voilà l'ouverture de l'œil intérieur, l'ouverture des yeux du cœur, de l'intelligence spirituelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Là est l'objet de la révélation. Il englobe tout en lui, nous dit la Bible, en Christ, sans réunir tous les desseins. Mais vraiment tous les desseins, toutes les voies, toutes les intentions de Dieu. Ce ne sont pas des choses que Dieu montre aux siens. Ce ne sont pas des choses qu'il veut nous montrer, mais c'est son Fils.